Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, 32. Avant de lire les versets qui nous intéressent, je vais vous donner un peu le contexte. Voilà, il traite de Moïse qui se trouve sur le sommet du Sinaï. Et pourquoi faire? Pour que Dieu il lui donne ses commandements, sa loi. Et vous savez bien l'histoire, comment ça s'est passé. Pendant que Moïse, il était là-haut, bon, le peuple d'Israël, il est tombé dans l'idolâtrie. Moïse, il attendait la loi, les tables de la loi écrites par les lois, par le doigt de Dieu. Hein? Il nous le dit dans le verset 15, hein? Il nous a dit les tables, hein, étaient écrites de deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. C'est Dieu qui écrit. Vous savez, chaque fois que Dieu écrit, c'est quelque chose de très important. Vous savez combien de fois Dieu il a écrit dans la parole de Dieu? Je vous le dis, moi, 3 fois. La première fois, c'est ici. Il a écrit quoi? La loi. Dieu, il est Dieu et il donne sa loi. C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui dirige ses enfants, c'est lui qui gouverne. Donc, il donne sa loi. Le deuxième endroit où Dieu, il a écrit, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 8. C'est là, à cette occasion-là, le roi, il avait utilisé tous les ustensiles du temple qu'il avait pris de Jérusalem. Et il était dans la fête et il les a utilisés. Et alors là, en certain moment, il y a eu une main qui a écrit sur le mur. Hein? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit « Mene, Tekel et Upharsin ». Mene, ça veut dire « compter hein? ». Tekel, « peser ». Ou Farsim, trouver léger. Ça, c'est lorsque Dieu il a écrit la deuxième fois, c'est le jugement. Lorsqu'on n'obéit pas à la loi de Dieu, il y a automatiquement le jugement. Cet homme-là, c'est un exemple, hein, il est marqué, il est dit, compté, tu as été compté par Dieu, hein, tu as été pesé et tu es léger. Jugement de Dieu. Troisième fois où Dieu il a écrit, c'est Jésus qui l'a écrit dans Matthieu 8 à propos de la femme adultère. Hein? Lorsque tous ils voulaient la lapider, Jésus il a dit le premier de vous qui est sans péché qu'il tire la première. Et il s'est mis et il a écrit. Alors personne il a tiré sur lui. Et Jésus, il a dit, je ne te condamne pas non plus. Là, la troisième fois, c'est la grâce. La loi, le jugement et la grâce. Ça, c'est le cheminement de toute notre histoire. Dieu nous a donné sa parole avec ce que nous devons faire. Comment devons-nous faire? Et il nous dit que si nous n'obéissons pas, il y aura automatiquement le jugement. Mais il y a aussi la grâce. Hein? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Comme l'a dit le frère, comment peut-on expier nos péchés? On ne peut pas. Mais Dieu, dans son amour, il est intervenu en grâce. Alors, en continuant un peu, ici on continue, et on peut se dire, quel grand Dieu que nous avons, qu'il a pensé à nous. Hein? Et on peut lire quelques versets de ces chapitres-là pour arriver à l'endroit où je vais en venir pour le message. Hein. Commençons à lire de versets 7 et 8, chapitre 32. Voilà, il était sur la montagne, il était en train d'écrire sa loi, et voilà au verset 7, qu'est-ce que c'est que l'Éternel lui dit? Il lui dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte se corrompu. Voilà, il dit, ton peuple, est-ce que c'est le peuple de Moïse? Non, c'est le peuple de Dieu. Mais vu cette idolâtrie dans lequel est tombé le peuple. Hein, il a dit, ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte. C'est pas Moïse qui l'a fait sortir, mais c'est Dieu, par la puissance de Dieu. Mais sachez que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu au plus profond de lui-même. Il continue. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est plus l'Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte, mais c'est le veau d'or. Après tout ce qu'il a fait, l'Éternel, voilà la récompense de ce peuple ingrat. Hein? Et on peut passer au verset 15. On lit par la suite, si vous voulez lire à la maison, Moïse qui implore Dieu de pardonner. Hein? Mais il lui a dit, descends. Hein? Au verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables des témoignages dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, « Ah, il y a un cri de guerre dans les camps !» Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Vous me direz, « Mais il n'y a pas de mal à chanter. Hein? » Mais là, ils étaient devant un veau d'or. Et ils chantaient sûrement pas à la gloire de Dieu. Ils chantaient à la gloire de ce veau d'or, parce qu'il a dit, « Israël, voici ton Dieu. » Hein? Et on continue au verset 25 et 26. Voilà. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans le désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Aaron, vous savez qui c'est? C'est le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Mais il les a aidés dans l'idolâtrie. D'ailleurs, un peu plus bas, il a dit, « Pourquoi, Aaron, est-ce que tu as permis ça ?» Il a dit, « Il voulait avoir un Dieu, il voulait voir les dieux. Alors, j'ai réclamé tout l'or qu'ils avaient, je l'ai jeté, vous pouvez le lire, c'est ça ce qu'il dit, je l'ai jeté et le veau est sorti. » Vous savez, Satan, il est là. Il n'a même pas façonné ce veau, il est sorti. Et ce veau d'or, ça le souvenir de ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Et ils se sont prostitués. Voilà pourquoi Moïse, 26, il dit, Moïse, il se plaça à la porte du camp. Et il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Voilà le titre de mon message. Un appel à la décision. Moïse envoya tout ce qui s'est passé, il s'est mis à la porte du camp et il a dit, « À moi, ceux qui sont à l'Éternel. » Un appel à la décision. Il y avait le désordre dans ce camp et il a appelé, vous, « Il faut que vous sortiez de ce désordre-là et si vous voulez être béni par le Seigneur, venez à moi. À moi, ceux qui sont à l'Éternel. » La semaine dernière, vous vous en souvenez de quoi on a parlé? De Josué. Il a exhorté les peuples d'Israël. Il leur a dit, vous servez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, je sers l'Éternel. Et ici, Moïse, il a dit, c'est vrai que vous êtes tombés dans les péchés, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc, vous voulez être pardonné à moi, ceux qui sont à l'Éternel. Voilà l'appel que nous, en tant que chrétiens, nous lançons tout autour de nous lorsque nous allons témoigner, lorsque nous allons évangéliser. Nous ne nous en rendons pas compte des fois, mais tout autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, si on ne connaît pas le Seigneur, ils sont perdus. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur annonce cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car si nous ne le faisons pas, qui il leur dira le chemin à suivre? S'il n'y a pas de prédicateurs, comment entendront-ils parler? Et ça, c'est à chacun de nous de le faire. À moi, ceux qui sont à l'éternel. À moi, tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. Et comme on a vu ce matin, c'est l'Église. C'est l'Église. Alors, on peut se poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire être pour l'éternel? Qu'est-ce que cela implique, être à l'éternel? La première chose qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il implique, c'est qu'il faut connaître Dieu. Connaître Dieu. Et Dieu s'est manifesté envers nous. Oui, mais je n'ai jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté par et à travers Jésus-Christ. Montre-nous le Père. Comment? Ça fait 3 ans que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Il faut connaître Dieu. Mais connaître d'une façon intime. Pas intelligemment. Je peux dire que je connais Macron, je le connais. Mais ce n'est pas comme ça que nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître d'une façon intime. Ce qu'il désire, ce qu'il veut que je fasse. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon Dieu. Connaître Dieu. Et Jésus, il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Voulez-vous connaître Dieu? Il faut regarder à Jésus. Parce que c'est lui qui a manifesté le caractère de Dieu. La façon de se comporter, de parler, d'agir, en toute chose. Nous avons qu'à regarder Jésus. Il est notre exemple. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, « Ayez le regard fixé sur Jésus. » Si chaque fois dans notre vie, nous avions les regards fixés sur Jésus, beaucoup de tentations, beaucoup de péchés, ils seraient évités. Avant d'aller voir quelque chose, avoir de fréquenter quelqu'un, ou avant d'aller dans n'importe où et se dire, « Que ferait Jésus à ma place ?» Que ferait Jésus? Il faut d'abord connaître Dieu. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Par sa parole. Par sa parole. Autre chose, une deuxième chose qui implique être pour l'éternel, c'est avoir foi en lui. Pas seulement le connaître, mais avoir foi en lui. Avoir foi, c'est quoi? Une confiance aveugle. Je connais Roland, mais je ne mettrai jamais ma confiance aveugle en Roland. Mais en Dieu, oui. Parce qu'il est Dieu. Dieu, il veut notre bonheur. Dieu, il nous dit, j'ai de l'avenir pour toi. Et c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas une autre personne qui a de l'avenir pour nous. Mais Dieu, il nous dit, j'ai de l'avenir. Quel est l'avenir pour ceux qui connaissent Dieu et pour ceux qui lui font confiance en toutes choses? Il nous a déclarés enfants de Dieu. Il nous a déclaré que nous allons hériter toutes choses. Co-héritiers de Jésus-Christ, la vie éternelle, la paix, la joie. C'est ça l'avenir. Et Dieu, il a tout ça en réserve pour chacun de nous. Si nous le connaissons comme le Seigneur Dieu miséricordieux et plein d'amour, nous devons lui faire confiance. Un peu comme vos enfants, ils vous font confiance. Ils vous font confiance. Il avait cette petite histoire, cet enfant qu'il était sur une hauteur, dans un mur. Et les gens, ils passaient, il a dit, allez petit, saute. Il ne sautait pas. Mais son père, il arrivait, sa mère, il a dit, mon fils saute, il a sauté. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance aveugle en sa mère. Il savait que les bras de sa mère, ils étaient là. Connaître Dieu, avoir foi en lui. Et troisième chose, c'est décider pour lui. C'est décider pour lui. C'est décidé pour lui. Vous savez, la femme Ruth, vous la connaissez. Pourquoi il a voulu suivre sa belle-mère, Noémie? Parce qu'il il avait confiance à elle. Et alors il a décidé de la suivre. Et il y a ce verset qui est fantastique. Il a dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Une décision de les suivre. Si on connaît Dieu, si on a une confiance entière en Dieu, nous les suivons en toutes choses. C'est ça, c'est décider pour lui. Où tu iras, j'irai. Où tu m'enverras, j'y vais. Voilà pourquoi Moïse, il fait cet appel. Et il y a une quatrième chose aussi, c'est demeurer. Demeurer en lui, s'attacher à sa présence, ne jamais s'éloigner de lui, l'avoir constamment devant nos yeux. Nous ne devons pas marcher derrière Jésus. On entend beaucoup de fois, Seigneur, aide-moi à marcher derrière toi. Non, c'est avec toi. Hein? C'est ça, demeurer en lui, demeurer dans tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas ceux qui savent, qui sont mes disciples, qui connaissent ce que je dis, qui connaissent ce que j'ai dit, mais c'est ceux qui le mettent en pratique. C'est ça que Dieu nous demande. Et cinquième chose, on l'a chanté, hein, c'est reposer sur lui. C'est reposer sur lui. C'est quelque chose de fantastique. Pourquoi? Parce que le combat que nous menons ici-bas, ce n'est pas notre combat. Le combat que nous menons, c'est Jésus. Il l'a déjà vaincu. Si nous sommes vivants, si nous sommes ses enfants, c'est parce que, si nous sommes sur cette terre, c'est parce que Jésus, il a vaincu. Voilà qu'est-ce qu'il implique d'être pour l'éternel. À moi, ceux qui sont pour l'éternel. Ça veut dire connaître Dieu. Ça veut dire avoir foi en lui. Ça veut dire se décider pour lui, toujours pour Dieu. Demeurer en lui, c'est reposer en lui. Voilà ce qui implique lorsqu'on dit « Je suis à Jésus-Christ, je suis à l'Éternel ». Ça veut dire l'avoir à la première place en toute chose. Parce que lui, il nous a dit « Ce que j'ai dit, je le ferai ». Et nous, c'est pareil. Si on suit le Seigneur, nous devons faire tout ce qu'il a dit. Abandonner les choses. Il y a autre chose aussi, hein, et Amos, dans qu'est-ce que c'est qu'on demande à ceux qui suivent le Seigneur, à ceux qui ont suivi Moïse, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, qu'est-ce que c'est qu'ils demandent à ces gens-là, à nous qui avons suivi le Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'ils nous demandent? Premièrement, ils nous demandent la séparation. De quoi? De qui? Hein? Ici, il nous a dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, pour aller, sortons de l'endroit où nous sommes, sortons de l'endroit où Dieu il n'est pas connu, sortons hors de ce monde. Si je dis ces choses-là à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne dépend pas de lui, qui ne demeure pas en lui, je lui dis, nous ne sommes pas du monde. Je ne suis pas du monde. Il te prend pour un fou. Mais Dieu, il nous dit, Jésus, il nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas du monde. Et si nous avons suivi le Seigneur Jésus, il nous dit, séparez-vous du monde. Ne restez pas dans ce monde. Il ne dit pas de l'abandonner. Nous sommes dans le monde, nous sommes vivants. Mais nous ne sommes pas obligés à faire les choses que le monde fait. Car lorsque nous nous convertissons au Seigneur, les choses ont changé. Il y a des choses que nous faisions avant. Maintenant que nous sommes au Seigneur, nous ne devons plus les faire. Ça ne vous est pas arrivé lorsque vous êtes convertis, jeunes et vieux, que quelqu'un vous dit, mais tu as changé. Tu ne viens plus t'amuser avec nous. Tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons pas dans ces choses-là le plaisir dont nous avons besoin. Les choses anciennes qui sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et ça, grâce à Jésus-Christ. Nous l'avons suivi à moi. Venez à moi. Pas venez à l'église ou venez à ce grand homme. Non, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Se séparer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ne pas les fréquenter, leur parler bien sûr, parce qu'il faut leur parler. Nous sommes au même endroit qu'ils se trouvent, mais ne pas les imiter, ne pas les suivre. Une séparation, car nous ne sommes pas de ce monde. Moi je suis italien, mais ma nationalité maintenant, c'est la nationalité céleste. Je suis enfant de Dieu. J'ai un père, mon vrai père est mort, mais j'ai un père maintenant, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, qu'est-ce que c'est qu'on demande à ceux qui suivent le Seigneur? De se séparer hors du camp. Il faut se mettre hors du camp. Deuxième chose, c'est la consécration. À moi, ceux qui sont l'Éternel. Consacrons-nous à l'Éternel, consacrons-nous à Jésus-Christ. Les choses qui doivent nous intéresser, c'est Dieu, Jésus et la vie chrétienne. Le reste, en second plan, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Les autres choses, ils viendront. Mais la première chose, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est exactement ce qu'il nous dit. Verset 29, il lui dit, il fait l'appel. Consacrez-vous afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Je vous l'ai dit la semaine dernière, lorsque le Seigneur il appelle aujourd'hui, ce n'est pas demain. À moi, ceux qui sont l'Éternel, consacrez-vous afin qu'il vous bénisse. C'est aujourd'hui que le Seigneur désire nous bénir. Pourquoi pas demain? Parce que demain, on ne sait pas si on est là. Dieu, il veut nous bénir là, en ce moment. Et lorsque nous ne sommes pas sous la volonté de Dieu, nous ne recevons pas de bénédictions. La semaine dernière, je vous l'ai dit à Élie, il avait peur de Jézabel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Le Seigneur, il lui parle, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Caché là, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Tu es un prophète, tu dois annoncer la volonté de Dieu. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Tu dois montrer l'exemple à tous ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Vas-y, mange. Et pars. C'est ça une consécration. Comme il a fait Jésus, il a dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Et pourtant, il était Dieu. Mais il a dit, non, je dois faire les choses pour mon père. À 12 ans, ses parents, ils le cherchent. Où est-ce qu'il est? Il est dans le temple. Il fait quoi? Mais il pose des questions sur Dieu, et il répond. Il a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait, mon fils? On t'a cherché. Et il a dit, mais savez-vous pas que je dois faire la volonté de Dieu? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Voilà, voilà ce qu'il a, Jésus. Voilà cette consacration qu'il nous demande. Et il y a une troisième chose, c'est, qu'est-ce que c'est qu'on demande? Mais la guerre. Hein, des fois, on demande de faire la guerre. C'est comme les musulmans. Alors, ah non, c'est pas ça. La guerre n'est pas contre la chair et les sang, mais c'est contre des dominations, contre des autorités, contre Satan, contre ses démons, contre toutes ces tentations, tous ces enseignements faux qui sont là. Nous sommes en guerre. Et nous devons combattre. Encore une fois, voilà pourquoi il nous a donné cette armure, le Seigneur. Éphésiens 6. Il a dit, revêtez-vous avant toute chose de l'armure de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Encore une fois, pas contre les hommes, mais contre les diables, les autorités. Et nous sommes en guerre, mais nous sommes dans une guerre qu'on a déjà vaincue. C'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Nous allons à la guerre, mais nous allons à la guerre avec la paix, en sachant que le Seigneur est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. Voilà les choses que le Seigneur il nous demande. Et il y a un verset dans Amos que j'aime bien, et qu'il nous montre exactement ce que nous étions. Voilà ce verset dans Amos 4, 11, il dit, « Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. » Bien sûr, il parle d'Israël, mais c'est nous ça. « Vous avez été comme un tison arraché. » Un tison, vous savez où est-ce qu'il est, le tison? Dans le feu, dans la condamnation, dans le jugement. Mais il dit, vous étiez là, mais vous avez été arraché. Et vous savez, il y a deux manières de sauver un tison du feu. Et ces deux manières, Jésus-Christ les a accomplies, toutes les deux. Premièrement, il a jeté nos péchés au loin. Nous étions dans ces feux, dans cet incendie. À cause de quoi? À cause de nos péchés. Il a pris nos péchés et il les a jetés loin. Et deuxièmement, il nous a arrachés de quoi? Du royaume de Satan pour nous transporter dans le royaume de son fils. C'est ça qu'on est en tison. Vous avez été en tison du feu, vous prenez les tisons et ils ne brûlent plus. C'est ce que le Seigneur il a fait pour nous. C'est ce que le Seigneur il a fait pour nous. Et c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir vivre ces choses-là. Et vous savez, hein, les tisons, c'est là, lorsque le Seigneur il nous a arrachés de ces feux, ça a été quelque chose de rapide. On ne traîne pas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Du moment où nous avons cru et nous avons mis toute notre espérance en lui, il nous a mis hors atteinte. Rapidement, on n'a pas du temps à attendre. Après un certain temps que j'ai cru, non, c'est tout de suite. Tout de suite. Le Seigneur, il nous prend et il nous met à l'abri. Et aussi, c'est une... a été quelque chose de complet. Complet. C'est-à-dire... arraché du feu une fois pour toutes. Et lorsque le Seigneur il arrache du feu, c'est quelque chose qui est suffisant. J'ai entendu même ce matin qu'il nous parle du purgatoire. Pourquoi le purgatoire? Mais parce que l'œuvre de Jésus-Christ, il ne purifie pas entièrement. Donc, lorsque nous mourons, il reste toujours quelque chose. Et alors, on nous envoie dans cet endroit. C'est le purgatoire. Déjà, le mot purge. Voilà, vous comprenez ? Purgatoire. Parce qu'il y a quelque chose que le sang de Jésus ne purifie. Et pourtant, il y a ce verset dans la Bible, que le sang de Jésus, tout péché. Comment des gens peuvent-ils dire que quand on a Jésus dans notre cœur, on n'est pas entièrement purifié. Lorsque Dieu, il dit le contraire. C'est comme une détention provisoire. Et en plus, il décide même combien de temps. Voilà, tu vas au purgatoire, tu vas rester X temps. Et ensuite, tu iras au paradis. Et encore, on peut mettre ce temps, on peut l'enlever. Comment est-ce qu'on l'enlève? Ben voilà, en donnant de l'argent au prêtre, à l'église, pour dire une messe. Ou sinon, en priant pour celui qui est au purgatoire. Mais qui décide toutes ces choses-là? Il n'y a que Dieu qui décide. Pourquoi est-ce qu'on mène des gens à l'erreur comme ça? Le sang de Jésus, il enlève, il purifie, il lave tout péché. Après la mort, si on a Jésus dans notre cœur, on monte au paradis, auprès de lui, parce que Jésus, il nous a ouvert la porte du paradis. Hein, comme je vous l'ai dit tellement de fois, hein. Celui qui meurt sans Jésus, il ne va pas à l'enfer. Il va dans les séjours de mort. Celui qui a Jésus dans son cœur, il ne va pas dans les séjours de mort. Où il allait avant? Ces séjours de mort, il était partagé en deux. Il y avait les saints d'Abraham et il y avait l'endroit où est-ce que les gens, ils souffraient. Vous en souvenez, le riche, il levait les yeux et il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Mais pourquoi ils allaient tous au même endroit? Parce que la porte du paradis était fermée. Qui c'est qui l'a ouvert? C'est Jésus, lorsqu'il est mort. Et lorsqu'il est mort, il a ramené tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et il les a ramenés au paradis. Et tous ceux qui meurent en ayant Christ dans son cœur, ils montent en paradis. Mais comment tu sais ça? Mais Étienne, vous vous souvenez Étienne? Il a été lapidé, il a levé les yeux et a vu Jésus qui s'est levé de son trône pour le recevoir. C'est ça. Abraham, il a lancé cet appel. À moi, tous ceux qui sont à l'éternel. Et c'est le même appel que nous lançons aujourd'hui. À moi, Jésus, il le donne. À moi, venez à moi, vous tous qui êtes remplis de péchés, qui avez besoin d'être purifiés, lavés. Et je vous donnerai toutes ces choses-là. Et encore une fois, c'est le titre de mon message, c'est un appel à la décision. Nous sommes là pour prendre une décision. Nous ne sommes là pour vivre 50, 60 ans dans la belle vie ou d'autres dans une vie pénible. Nous sommes là, nous venons au monde pour prendre une décision parce que nous venons dans le monde condamnés. Voilà pourquoi la bonne nouvelle, il est là, que si nous tournons vers Jésus, nous aurons cette vie éternelle. Et voilà, à moi ceux qui sont pour l'éternel, venez à la grâce, elle est disponible encore. La porte est ouverte. Vous savez, Noé, Dieu il a dit de construire une arche. Il ne connaissait même pas ce que c'est cette arche. Il dit qu'il allait pleuvoir. Il a prêché pendant 120 ans. Venez, rentrez dans l'arche. Ils n'ont pas voulu. Mais à un certain moment, Dieu, il a fermé la porte. Il dit, mais ce n'est pas un Dieu d'amour, Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ferme la porte? Ben oui, mais il vous a averti. pendant 120 ans. Et dans notre propre société, Dieu, ça fait 2000 ans qu'il avertit. Hébreux 1. Dieu a parlé dans le temps, dans les visions, par des prophètes, par des songes. Et dans le dernier temps, il nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Dans l'épître à Pierre, il nous le dit. Oui, ça fait 2000 ans que vous nous prêchez que Jésus, il va revenir. Encore, il n'est pas revenu. Mais Pierre, il donne une réponse. Il a dit, c'est parce que Dieu est fidèle. Dieu, il est patient. Mais la patience de Dieu, un jour, elle va se terminer. Au déluge de Noé, exactement pareil. La porte fermée, tous ils ont été jugés, condamnés. Donc, la porte, elle est toujours ouverte. La porte est étroite, dit le Seigneur, mais elle est ouverte. Donc, à chacun de nous, de répondre à cet appel.